France Inter, 7h.
France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Bienvenue sur France Inter, bonjour à tous, nous sommes le lundi 8 juin et le 7-9 continue de se déconfiner un peu plus ce matin, juste avant 9h. C'est le retour des humoristes du 7-9, Sophia Aram pour commencer, et puis Charline Vanhoenacker, Sonia De Villers reviennent en chair et en os ici en studio. Enfin, après 9h, le grand retour de Boomerang et de l'Instant M à l'antenne d'Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, faut-il accélérer le déconfinement? Précisément, la situation sanitaire continue de s'améliorer avec un nombre de décès quotidiens au plus bas depuis près de 3 mois. On fait le point, Agnès, avec vous après les autres titres.
L'impatience des parents face à des classes toujours à moitié vides. Elles sont jeunes, françaises et noires, paroles d'adolescentes sur le racisme au quotidien. Et puis un trafic extrêmement lucratif, le trafic des civelles de la côte atlantique aux assiettes asiatiques.
Les invités de France Inter en ce lundi matin, 7h50, Léa.
Il présente son 6e et dernier rapport annuel avant de quitter son poste. L'infatigable défenseur des droits met en garde contre les risques de l'état d'urgence sanitaire pour nos libertés, contre les contrôles d'identité abusifs et les inégalités à l'école en cette période de déconfinement. Jacques Toubon nous détaille ses conclusions en exclusivité à 7h50.
Et à 8h20, Léa, grand entretien de la matinale avec le ou la lauréate du prix du livre Inter 2020. Vous connaîtrez son nom au début du journal de 8h. Elle ou il sera là en studio avec nous, ainsi que le président du jury Philippe Lançon et la grande organisatrice du prix du livre Eva Bétan. Vous pourrez intervenir bien sûr, amis lecteurs, au 01 45 24 7000.
France Inter.
Encore 2 semaines de patience. Officiellement, c'est le 22 juin que la phase 3 du déconfinement doit être enclenchée. Mais au sein même de l'exécutif, une question divise. Faut-il accélérer le rythme et lâcher du lest plus tôt? Plusieurs personnalités disent oui, notamment le président du conseil scientifique, Jean-François Delfrécy, qui dès vendredi sur Inter estimait que l'épidémie de Covid-19 était sous contrôle. Analyse renforcée, Hélène Chevalier, par les chiffres publiés hier soir.
Certes, ce n'est pas un indicateur pertinent, mais il est symbolique. Hier, 13 personnes sont mortes du coronavirus à l'hôpital. C'est le bilan le plus faible depuis le 14 mars, avant le confinement. Nombre d'hospitalisations, de consultations chez le médecin, pourcentage de tests positifs. L'épidémiologiste Daniel Lévy-Brulle scrute tous ces indicateurs pour Santé publique France et aucun n'indique de seconde vague.
Nous suivons un indicateur qui est ce fameux nombre de reproductions, ce fameux R. Et ce R confirme que dans aucune région, dans aucun département, il n'y a d'intensification de la circulation du virus qui ferait craindre le fait qu'il y ait une reprise de l'épidémie.
Les 150 cas groupés repérés sont eux aussi sous contrôle, selon l'agence. Même les EHPAD, pourtant durement touchés pendant cette crise, comptent très peu de nouveaux cas depuis un mois. Pas question pour autant d'aller trop vite, tempère l'épidémiologiste.
Une bonne nouvelle comme celle-ci, le fait de dire, parce que c'est la vérité, qu'aujourd'hui l'épidémie est sous contrôle, pourrait induire un relâchement, parce que bien entendu, les mesures barrières, les mesures de distanciation sociale, c'est une très forte contrainte que nous subissons depuis des semaines, voire des mois. Tout le monde a envie de pouvoir revivre la vie d'avant. Malheureusement, c'est encore trop tôt.
2 départements échappent tout de même à ces bonnes nouvelles, la Guyane et Mayotte, où le virus circule toujours de façon active.
Et l'impatience est particulièrement forte en Île-de-France, région classée orange, où l'intérieur des restaurants reste inaccessible et où les établissements scolaires sont moins ouverts. Au niveau national, 90% des écoles et collèges ont rouvert, mais seul un quart des enfants du primaire et 17% des collégiens ont retrouvé leur classe, à temps très partiel parfois, en raison des règles sanitaires et du nombre d'enseignants présents effectivement, 55 à 60% la semaine dernière selon les chiffres du ministère. Boris Loumagne a rencontré hier au Parc Montsouris à Paris des parents un peu excédés.
Les règles sanitaires à l'école.
Je trouve que c'est un petit peu exagéré et ça peut plus être traumatisé.
Pour la fille d'Isabelle qui est en grande section de maternelle, c'est récréation par petits groupes, coin des jeux fermés, beaucoup d'enfants absents, bref, vraiment pas l'idéal.
On sent monter entre les parents la volonté d'un assouplissement des règles, ne serait-ce que pour les dernières semaines, là, pour permettre aux enfants quand même de se retrouver, surtout à des années charnières comme la grande section, ils se reverront pas forcément l'année prochaine.
Et puis les enfants ont besoin d'échanger entre eux quotidiennement, selon Anne. Son fils et sa fille ne se rendent à l'école que deux fois par semaine.
La sociabilité pour un enfant, c'est extrêmement important. Et socialement, c'est pas très bon de jamais voir personne de différent. C'est un grand mot de dire qu'ils sont dépressifs, mais ils sont un peu déprimés.
Et les parents, eux, sont fatigués. Les deux filles de Guillaume ne vont à l'école qu'un jour par semaine. Alors le reste du temps, le papa s'occupe d'elles tout en travaillant à la maison.
On n'est pas des profs non plus, on ne fait pas notre métier. Donc la charge de fatigue, elle est importante, hein, c'est clair. On pioche dans les réserves, c'est pas évident à gérer.
Plus que 4 semaines à tenir avant les vacances d'été.
À l'approche des vacances, justement, hôteliers et restaurateurs se préparent en espérant le retour le plus vite possible des touristes. L'île de Noirmoutier, par exemple, 10 000 habitants durant l'année, 100 000 visiteurs par jour durant l'été. Philippe Lefebvre, ici, les commerçants comptent plus sur une fréquentation en hausse que sur les aides ou les prêts de l'État pour passer ce cap difficile.
À quelques heures de l'ouverture de sa brasserie, avec vue imprenable sur le port, Thierry Martin est à la fois serein et pressé de retrouver ses clients après 3 mois de fermeture. Et quand on lui parle de son chiffre d'affaires envolé, sa réponse peut surprendre.
On ne récupérera jamais. Il faut faire un deuil là-dessus. Ce qui est perdu est une chose perdue. En revanche, désormais devant nous, nous avons du travail à faire et aller de l'avant, tout simplement.
Non loin de là, Sophie Bonnet reconnaît avoir perdu 90% du chiffre d'affaires de son hôtel avec spa. Mais pas question pour elle d'avoir recours aux aides ou aux prêts garantis par l'État.
On m'a jamais appris à emprunter pour de la dette. On m'a appris à emprunter pour des investissements qui rapportent de l'argent. Donc, pour l'instant, on a pris sur la trésorerie qu'on avait accumulée depuis 10 ans. Maintenant, elle s'épuise très très vite. Il nous reste à peu près un mois de creux auquel on peut faire face.
Et cette détermination, on la ressent chez tous les commerçants, mais aussi à la mairie où Yann Bala, le nouveau maire, veut croire à une bonne saison estivale.
On espère qu'il va y avoir du monde. Il va falloir juste tout simplement bien le gérer. Là, on est en train d'embaucher 10 personnes pour aller sur les plages, dans les rues où il peut y avoir du monde, donc pour donner des masques aux gens, pour respecter les distanciations, parce que c'est bien d'accueillir du monde, mais il ne faut pas faire peur.
Un enjeu vital pour Noirmoutier, qui reçoit habituellement 100 000 visiteurs par jour durant l'été.
Reportage de Philippe Lefebvre. Et il n'y aura sans doute pas beaucoup de touristes britanniques cet été à Noirmoutier, ni ailleurs en France, puisque Londres impose désormais une quarantaine de 14 jours à toute personne arrivant au Royaume-Uni. Et si aucun accord n'est trouvé, Paris fera de même pour les touristes britanniques arrivant en France. La pandémie a dépassé hier le seuil des 400 000 morts dans le monde, continuant à progresser en Amérique latine et en Pologne, avec un foyer de contamination inquiétant dans une mine de charbon au sud du pays. Des centaines de nouveaux cas également dans une mine au nord-est, cette fois, de la République tchèque.
Il est 7h08, Agnès, être jeune et noir en France aujourd'hui.
2 semaines après la mort de George Floyd aux États-Unis, la colère gronde et la parole se libère partout dans le monde. Maëlys et Ambre ont 17 et 18 ans. Elles ont raconté à Faustine Calmel le racisme au quotidien.
C'est en se promenant dans les rues de Versailles en bas de chez elles, territoire connu, que les deux jeunes filles ont fait leur première expérience brutale du rejet.
Je me suis déjà fait cracher dessus quand je marchais dans la rue.
Même quand je marche avec mon copain qui est blanc, il se fait insulter, genre « t'as pas le droit de faire ça, fils de Satan », des choses horribles.
Reliées directement, disent-elles, à cette couleur noire qui leur colle à la peau.
En fait, la première chose que les gens y voient quand ils nous regardent, c'est pas notre personne nous-mêmes. Quoi qu'on fasse, ce sera toujours que notre couleur de peau qui comptera en fait.
Des regards, des mots qui heurtent et des gestes aussi déplacés.
On va se permettre de toucher mes cheveux et d'émettre des réflexions du style « Ah, c'est original, on est des bêtes de foire ». Moi, c'est des choses que je me demande au fond. Je me dis « Mais pourquoi ferais-je jamais ça à quelqu'un qui a les cheveux lisses ?»
Ambre et Maëlys sont alors des choix d'orientation. Elles se sentent comme freinées dans leurs ambitions.
Je suis dans un très bon lycée. Que je sois en terminale S, ça choque les gens puisque... Il y a une sorte de cliché que toutes les personnes de couleur, soit elles sont déscolarisées, elles vont en lycée professionnel ou technologique.
Pourquoi avocate? Mais comment tu vas faire? Comment tu vas accéder à cette école? Je vais travailler comme tout le monde. C'est plutôt à moi de retourner en fait le problème. Pourquoi ces questions?
Des questions jusqu'à en perdre confiance.
Au final, on finit par croire qu'on n'y arrivera jamais, qu'aucune personne de couleur n'y est parvenue avant. Donc pourquoi nous en fait? On vit quand même dans un système qui ne veut pas de nous. Mais en tout cas, c'est l'impression qu'il donne.
Et quand on raconte tout cela, conclut Maëlys, on nous répond que nous nous victimisons. Elle a décidé malgré tout de ne plus se taire.
Reportage de Faustine Calmel, de Londres à Budapest, en passant par Paris, Madrid et Rome. Ce sont des dizaines de milliers de personnes qui ont manifesté contre le racisme et les violences policières. En France, de plus en plus souvent, la police des polices est saisie. Une hausse de 23% des enquêtes judiciaires selon l'agence France-Presse, le plus souvent pour des faits de violence. Ajoutons qu'à Bristol, hier, la colère des manifestants s'est retournée contre la statue d'un négrier de cette ville au passé esclavagiste. La statue a été déboulonnée et piétinée par la foule. Signe malgré tout que la mort de George Floyd a déjà fait bouger les lignes. La ville de Minneapolis, où a eu lieu le drame, a décidé de démanteler sa police. Décision prise en conseil municipal. Objectif élaboré avec la population. Un nouveau modèle de sécurité publique qui assurerait vraiment la sûreté de la population.
7h10 en France, Agnès, un trafic très particulier.
On l'appelle l'or blanc ou l'ivoire européen. La civelle, le petit de l'anguille, est une espèce en voie de disparition, protégée depuis 2009. On la trouve notamment sur la côte atlantique. C'est aussi un mets très apprécié en Asie. Elle est donc l'objet d'un important et lucratif trafic, Ariane Grissel.
C'est un marché aussi rentable que la drogue et les méthodes sont d'ailleurs les mêmes. Les alevins sont par exemple eux aussi transportés par GoFast, ces convois avec voiture ouvreuse pour vérifier l'absence de douaniers. Ils sont également parfois exportés dans des boîtes étanches cachées dans des bagages à double fond. Le tout pour des larves achetées aux pêcheurs sur le marché noir pour quelques centaines d'euros le kilo et revendues autour de 5000 euros le kilo à des fermes aquacoles en Asie. L'opération d'Europol a été menée entre octobre et avril, période où la civelle arrive sur nos côtes. Les 2 tonnes saisies ont été relâchées. Les trafiquants voient ainsi repartir à l'eau une marchandise estimée à 6 200 000 euros. Avec une interrogation, comment ces animaux auraient-ils pu être exportés vers l'Asie en période de confinement ? C'est sans doute ce qui explique que 2 tonnes seulement, si l'on peut dire, de civelles ont été saisies cette année par les enquêteurs européens contre 6 l'an dernier. Une goutte d'eau quand on sait qu'Europol estime que 100 tonnes de civelles sont exportées illégalement chaque année vers l'Asie.
Après les 8 milliards d'euros pour la filière automobile, le gouvernement envisage un plan d'aide jusqu'à 10 milliards pour sauver l'aéronautique, notamment pour préserver l'emploi. C'est ce qu'annoncent les Échos ce matin. En attendant, reprise des vols aujourd'hui depuis et vers les aéroports de Nantes et Lyon. Enfin, vous découvrirez son nom tout à l'heure dans le journal de 8 heures. Le prix du livre inter à un nouveau lauréat, élu hier soir par un jury de 24 lecteurs à l'issue de 2 journées de délibération en visioconférence. Le prix du livre inter, ce sont les jurés qui en parlent le mieux, Corinne Pélissier.
Tous se faisaient une joie de découvrir, comme leurs prédécesseurs, les coulisses de la maison de la radio. Mais le coronavirus est passé par là et il a bien fallu se rendre à l'évidence. Les jurés de cette édition 2020 ne se parleraient qu'à travers un écran d'ordinateur.
Je me suis dit, oh là là, mais c'est vraiment pas du tout ce que j'attendais.
Expérience au démarrage un peu frustrante pour Alice Brunet-Crouzet, documentaliste en Ardèche.
Et donc du coup, je me suis arrangée pour trouver tous les livres en version papier. J'ai téléphoné à des libraires que je connais. On s'est donné des rendez-vous secrets pendant le confinement. Et puis, je trouve que la mayonnaise a pris.
Car à l'issue d'un premier round de discussion, tous étaient d'accord pour l'admettre. Cette édition virtuelle allait créer un lien un peu spécial.
Malgré l'aspect technique qui nous a tous rebutés, on a dépassé ça.
Odile Benoît, formatrice à Maison Alfort, retient surtout la bienveillance des échanges et la qualité du groupe.
On s'est enrichis les uns des autres. Il y avait des avis extrêmement partagés. Moi, j'ai trouvé ça passionnant.
Il aura fallu 3 tours de vote au juré 2020 pour tomber d'accord.
Je me suis un peu battu comme un ours.
Pas de dîner cette fois pour débriefer. Yannis Zouguelèche, consultant biologie, le regrette.
Je pense que c'est la frustration de ne pas être ensemble qui nous a poussé un peu à échanger des mails et tout. Et puis, il y a un des jurés là qui est à Paris qui m'a proposé d'aller boire des bières demain.
Mais ce Parisien, on a la certitude, l'aventure n'est pas encore terminée.
Rendez-vous à 8h.
Et à 8h20, avec le ou la lauréate, Philippe Lançon, président du jury et grande organisatrice, Eva Béton. Merci Agnès Soubiran.